Bonjour à tous. Donc, nous continuons dans les psaumes. Il y a 15 jours, j'avais abordé le psaume 8. Je reviens légèrement en arrière et ce matin, on va lire ensemble les psaumes 6 et 7. J'ai choisi d'aborder ces deux psaumes en même temps parce que ces psaumes, en fait, font apparaître une tension. Et en fait, j'ai envie de dire même plusieurs tensions. Et donc, on va les lire et je vous demande d'être attentif au fait que plusieurs attitudes, plusieurs caractéristiques de Dieu sont mis en avant et sont justement des caractéristiques qui se... je vais dire qui s'opposent, mais en fait, qui se mettent en tension. Donc, soyez attentifs aux notions de colère et de miséricorde, à la repentance, à la culpabilité et à l'innocence, à la notion de foi et à celle de doute, à celle d'assurance et à celle de remise en question, à celle de ce qui est déjà là et à ce qui n'y est pas encore. Donc vous voyez plusieurs notions qui s'opposent et qui se répondent. Donc je vais lire dans la traduction du Semeur. Donc je commence au psaume 6. Donc ce sont deux psaumes de David. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de harpe à 8 cordes. Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas. Et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant. Je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours? Ne voudras-tu pas venir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit sur mon lit je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus, car tous mes ennemis en sont la cause. Retirez-vous, tous artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront soudain tout honteux. Complaint de David, qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce que Couche le Benjaminite avait dit. Ô Éternel mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent, viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer, je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, et veille à mes côtés, toi qui as établi le droit. Que les nations s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge, qui fait chaque jour sentir son indignation à celui qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, il porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Ce psaume commence, enfin, donc ces deux psaumes commencent avec David qui implore le pardon de Dieu, qui voit la colère de Dieu sur lui, qui voit son châtiment et qui implore Dieu de ne pas le punir. David est à ce moment-là conscient de sa culpabilité, de son péché, et ce psaume décrit sa profonde souffrance physique et morale face à ce fardeau qui pèse sur lui, et il invoque l'amour de Dieu, il invoque sa miséricorde. On voit le désarroi moral, le doute qui assaille David, le doute de sa place devant Dieu, de sa relation à Dieu. Est-ce qu'il est toujours auprès de Dieu? Est-ce que Dieu est toujours auprès de lui? Et David va donc invoquer la miséricorde de Dieu, et il va exprimer sa foi en cette miséricorde, l'assurance que Dieu lui répond. Donc on voit cette première tension entre la foi et le doute. Le doute a souvent mauvaise réputation parmi les chrétiens, peut-être les chrétiens évangéliques, parce qu'on voit, on peut voir ça comme une faiblesse. Mais le doute nous permet aussi de nous replacer devant Dieu. Il ne s'agit d'ailleurs pas tellement de douter de douter de Dieu, mais de douter de nous-mêmes, de douter de ce que Dieu nous a révélé, de le remettre en question, de le remettre devant Dieu, de demander à Dieu de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Bien sûr, notre vie ne peut pas être que de doutes, mais une vie qui est faite uniquement de certitudes est aussi une vie qui se coupe de la révélation de Dieu. Donc ces deux notions se répondent. David exprime sa culpabilité. Yann, la semaine dernière, nous a lu ce psaume 51 qui nous parle de la chute de David. Il a eu à plusieurs occasions, David, l'occasion de finalement de désobéir à Dieu, et il est revenu. Il est revenu vers Dieu. Et à chaque fois, Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli et l'a pardonné et l'a relevé. Donc il exprime la conscience qu'il a de son propre péché. Et une chose qui m'a paru intéressante dans ce psaume, c'est l'évolution, la façon dont David va parler justement du mal et du péché. Et avec la place centrale de la miséricorde de Dieu, le péché, qui était une réalité intérieure, devient dans ce psaume une réalité extérieure. Il commence avec sa propre culpabilité et il termine en demandant à Dieu d'éloigner les artisans du mal, d'éloigner le mal de lui. Et cette notion du fait que d'une réalité intérieure, le mal devient une réalité extérieure, pour moi, c'est une source d'encouragement. Parce que c'est ce que le Seigneur fait pour nous. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. De pécheurs, il fait de nous des justes. On va y revenir dans le psaume suivant, mais cette réalité du mal qui devient quelque chose qui est extérieur à nous, quelque chose que nous pouvons rejeter, Ah, ça fait écho à plusieurs, évidemment, plusieurs autres textes, et je vais en lire, simplement deux. Le premier qui concerne le tout début de la, le tout début de l'apparition du mal sur, parmi l'humanité, et Dieu va parler à Cain. Il va parler à Cain au moment où, où Cain s'irrite du fait que Dieu a accepté le sacrifice de son frère, Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Le péché comme une réalité extérieure, le mal comme étant extérieur à nous, une réalité contre laquelle nous pouvons lutter et que nous pouvons rejeter. On peut trouver cette, cet encouragement aussi dans 1 Pierre, où là le mal est personnifié. Donc Pierre nous encourage, il nous dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de vous qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Le péché, évidemment, était quelque chose que David connaissait. Et pourtant, il cherche à rejeter le mal loin de lui. Et on sait que David a choisi de suivre son Dieu, de lui faire confiance. Et on sait aussi qu'il était entouré de violence, entouré parfois d'hommes violents, parfois d'hommes qui lui étaient proches. Et là, je pense à son général en chef, Joab, dont on sait qu'il a choisi de régler ses conflits, de régler ses problèmes par la violence. Et je pense que ce choix de la violence qui était fait par les hommes qui entouraient David était aussi un combat pour lui, et David devait choisir un autre chemin. Et c'est ce qu'il a fait à de nombreuses reprises. On sait comment il a traité Saül quand il avait l'occasion de le tuer. Il a choisi un autre chemin. Quand il est arrivé sur le trône, il avait aussi le choix de se débarrasser de la famille de Saül, ce qui se faisait habituellement. Il a choisi à chaque fois un autre chemin que la violence, et il a rejeté le mal. Et il a rejeté le choix des violents qui l'entouraient. Donc, cette réalité extérieure nous encourage à combattre. D'abord, c'est une libération. Le Christ nous libère du mal, et Paul va le dire encore d'autres façons. Le mal que je ne fais pas le bien que je veux, et le mal s'attache à moi. Et il va aussi exprimer le fait que le Seigneur nous fait entrer dans une nouvelle réalité, une réalité où le mal n'est plus quelque chose qui nous caractérise, mais quelque chose contre lequel nous luttons et quelque chose que nous rejetons. C'est lui qui s'exclame face à Pierre, « Satan, éloigne-toi de moi » quand Pierre lui propose de sortir du chemin que Dieu a préparé pour lui. Le Christ lui-même rejette le mal qui est proche de lui. Un combat et une libération. Ce premier psaume nous met en avant un appel à la vie. David va appeler Dieu à son secours. Et il va l'appeler pour que Dieu le délivre maintenant. Et il va nous dire, dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? cette notion d'une séparation avec la mort est quelque chose qui revient à de nombreuses reprises dans la parole. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ça a l'air d'être une évidence, ce que je vous dis, et pourtant, il me semble que parfois on se laisse influencer. Alors, je ne vais pas dire par la culture ambiante. Il y a pas très longtemps, vous savez, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Coco, qui est un film de Walt Disney. Je ne sais pas si ceux qui ont des enfants l'ont peut-être vu. Et en fait, c'est un film qui est bien fait par ailleurs, mais qui présente une réalité, je trouve, assez terrifiante. Donc, qui s'appuie sur la culture mexicaine du culte des ancêtres, finalement les ancêtres vivent dans le monde des morts, et finalement leur bonheur dans ce monde-là est conditionné par le fait que les vivants pensent à eux. Et que les vivants leur rendent un espèce de... mettent en avant leur mémoire. Et en fait, et bien sûr, c'est une vision qui, je trouve, assez terrifiante, de faire porter sur les vivants le poids de tous ceux qui sont morts avant eux. Je trouve ça assez terrible. Clairement, la Bible nous présente une réalité qui est complètement différente de ça. Le monde des morts est un monde qui n'a plus de relation avec les vivants, et même plus de relation avec Dieu. Et Dieu est un Dieu des vivants. Souvent, on pense au royaume de Dieu, et je dis ça évidemment d'abord pour moi, le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Et c'est vrai. Ce que nous construisons a une portée qui va au-delà de ce monde. Et nous regardons à l'éternité. Nous regardons à ce trésor dans le ciel. Et c'est une bonne chose, mais rappelons-nous que le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des morts, c'est pas le royaume pour après. Le royaume de Dieu, c'est aussi le royaume ici et maintenant. C'est ce que nous dit David dans ce psaume. Il dit à Dieu, sauve-moi maintenant, parce que c'est maintenant que ça compte. C'est maintenant que je peux te louer. C'est maintenant que je peux décider pour toi. C'est maintenant que je peux agir. Ici et maintenant. Dans cette vie-ci, parce que quand je serai mort, eh bien, ce ne sera plus le moment du choix, plus le moment de l'action, plus le moment de la louange. Alors bien sûr, nous avons cette espérance que Paul nous rappelle, par exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens. Le Christ viendra et ceux qui sont morts ressusciteront et Dieu les prendra et les fera monter avec lui dans son nouveau royaume, dans sa nouvelle terre. Dieu est toujours le Dieu des vivants. Et notre espérance, c'est la résurrection. Notre espérance, c'est une nouvelle vie. Mais cette vie-ci, Dieu nous la donne ici et maintenant pour que nous agissions, pour que nous accomplissions ce qu'il a mis devant nous pour accomplir. Nous ne pouvons pas nous contenter de construire un trésor pour plus tard. Dieu nous place devant notre vie, ici et maintenant, pour que nous vivions ce qu'il a mis devant nous pour vivre. Donc encore une tension entre le maintenant, le ici et l'éternité. Dans le deuxième psaume, David a une attitude, une position différente. Dans la première, il commence avec la repentance et la reconnaissance de sa culpabilité. Dans le deuxième psaume, il a une attitude où on est peut-être moins confortable. Quand on lit ce psaume, on voit David qui affirme sa justice, qui affirme son innocence face à ses adversaires. Alors c'est inconfortable parce que face à quelqu'un qui affirme sa justice, on a le sentiment de glisser vers quelqu'un qui prend une attitude de justicier, de juge, d'inquisiteur. Et cette attitude-là, nous la savons très déplaisante. Nous savons tous les abus qui ont été commis avec cette attitude-là de ceux qui mettent en avant leur propre justice et qui surtout jugent tous ceux qui sont autour d'eux. Donc, on est moins confortable avec cette démarche de David. Pourtant, David se présente d'une façon particulière devant nous et devant Dieu. David met en avant son choix. Le choix qu'il a fait de marcher avec Dieu, de prendre Dieu pour bouclier. David a choisi de respecter le bien d'autrui, de ne pas opprimer. C'est ce qu'il dit, est-ce que j'ai causé du tort à mon ami? Et puis David va aller même un peu plus loin et rejoindre ce que Jésus exprimera plus clairement dans le sermon sur la montagne. Il va dire, alors dans cette traduction, il y a plusieurs traductions différentes pour ce verset, mais « si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire ». Une autre traduction dit « si j'ai volé celui qui m'opprimait sans raison ». L'idée que même ceux qui sont ses adversaires, ses ennemis, eh bien David a choisi de ne pas les agresser, de ne pas les dépouiller, de ne pas leur faire de mal. Dans le serment sur la montagne, Jésus va dire vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, et bien moi je vous dis aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. C'est un peu cette même idée. David a fait ce choix de marcher avec Dieu, de prendre Dieu comme son référent, de chercher son soutien et son appui, sa confiance est basée sur la présence de l'Esprit de Dieu sur lui. Un peu la même attitude que celle de Job, par exemple. Job va dire un peu la même chose que ce que dit David. Job va affirmer son innocence, va affirmer sa justice devant Dieu. Bien sûr, donc là on sent déjà la tension, même pour Job. Job a conscience du fait que nul ne peut être pleinement juste devant Dieu. Et juste avant, David a reconnu lui-même sa propre culpabilité. Malgré tout, il va affirmer son innocence et son droit. Et Dieu reconnaît ce droit et cette innocence. Parce que la parole nous dit à d'autres endroits, il a imputé la foi, il a tenu compte de la foi de celui qui se tenait devant lui. Les sociologues font souvent des expériences, les sociologues, les psychologues, pour voir comment est-ce que nous fonctionnons. Et une de leurs expériences m'a remis en question. Ils se sont aperçus, ils ont justement étudié donc comment nous percevons le sens justement de justice, d'innocent et de coupable. Et ils se sont rendus compte, en mettant les gens dans des situations justement où des personnes étaient victimes ou victimes de mauvais comportements, que finalement ceux qui avaient un sens de la justice le plus développé, eh bien c'était ceux-là qui reprochaient aux victimes ce qui leur a été arrivé. Quand une femme, par exemple, est agressée, finalement, c'est ceux qui ont un sens de la, de la justice le plus élevé qui vont chercher à remettre la culpabilité sur elle. On connaît les arguments, est-ce qu'elle était habillée, comme ceci, comme ça. Simplement, la démarche, c'est simplement que ils ont du mal, nous avons du mal, à accepter l'idée que quelqu'un puisse souffrir sans cause, que ce ne soit pas sa faute. Parce que ça viole notre sens de la justice. Celui qui souffre doit le mériter quand même un peu. Ici, David affirme son innocence. Affirme son innocence devant Dieu. Et il appelle la justice de Dieu. Il demande à ce que Dieu se lève et qu'il rende la justice, qu'il affirme la culpabilité du méchant. Qui est juste, qui est méchant? Vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe encore, j'ai envie de dire encore une fois aux États-Unis. Il y a eu un massacre dans un lycée. Encore une fois, un élève, un jeune, je ne sais plus, est revenu avec une arme et a tué plein de gens. Bon. Et comme à chaque fois, donc la NRA, donc le lobby des armes américain, propose, pour régler le problème, qu'il y ait encore plus d'armes, avec cet argument, qui est le même à chaque fois, c'est que face aux méchants, si les méchants sont armés, il faut que les gentils soient aussi armés. Donc les good guys, les bad guys, donc si les good guys, ils ont des armes, ça rééquilibrera et ça ira mieux. Indépendamment de la logique de cette proposition, le problème, c'est évidemment qui sont les good guys et qui sont les bad guys. Qui c'est qui juge de qui est le bon et qui est le méchant? Malheureusement, on sait que dans ce genre de conflit, le bon, c'est celui qui est toujours vivant à la fin, ou celui qui a la bonne couleur de peau. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ici, David se appelle à la justice, appelle à la justice de Dieu. Et il nous dit, Dieu est mon bouclier, il sauve celui qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge. Alors, je reprends juste un petit peu avant. Donc, mets donc un terme au méfait des méchants, affermis le juste, toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Littéralement, les cœurs et les reins. Évidemment, ce jugement sur les peuples, ça a une dimension eschatologique. C'est le jugement de la fin. Quand Dieu va se lever et juger les peuples, bien sûr, ce jugement est un jugement qui s'appliquera à la fin des temps, et pas maintenant. Malgré tout, ce Dieu qui sonde les cœurs et les reins, ce Dieu juge maintenant. Et le texte nous dit chaque jour, Dieu fait sentir son indignation. D'autres traductions disent Dieu s'irrite en tout temps. Chaque jour, maintenant, Dieu voit le mal et s'en indigne et s'en irrite et le rejette. Et David appelle à ce que la justice soit reconnue, à ce que l'innocent soit reconnu comme innocent, à ce que le méchant soit désigné comme méchant. C'est même intéressant de voir la façon dont le jugement de Dieu s'applique dans ce passage. Le jugement de Dieu s'applique, ce texte nous dit, sa violence retombe sur sa tête. Les mauvais desseins qu'il avait planifiés et qu'il a enfantés, ces mauvais desseins se retournent contre lui. Il ne s'agit pas tellement ici d'appliquer un jugement extérieur. La rébellion contre Dieu, puisque le méchant, c'est celui-là. C'est celui qui ne revient pas à Dieu. Il est là le critère. Celui qui ne revient pas à Dieu. Eh bien, cette rébellion porte en elle-même sa condamnation. Donc nous avons encore une tension entre le coupable et le juste. David nous encourage à chercher la justice. À la chercher en ayant conscience que celui qui juge, c'est celui qui peut sonder les cœurs et les reins. Mais cette justice est malgré tout quelque chose qui est devant nous et que nous devons rechercher. Donc je m'arrête là, dans le commentaire de ces deux psaumes, et je vous encourage à faire vivre ces tensions dont on a parlé. La vie avec Dieu, c'est pas quelque chose qui... on le dit souvent, mais c'est pas quelque chose de facile, quelque chose qui se fait dans le sans lutter. Il y a une tension. Il y a une tension entre notre culpabilité et l'innocence et la justice que Dieu nous donne. Il y a une tension entre ce que nous avons à faire ici et maintenant et notre espérance de la vie future. Et cette tension, c'est la vie. La vie, c'est une tension. C'est quelque chose il y a toujours une dynamique, toujours quelque chose à trouver, un équilibre à trouver, sans chercher à aplanir ce qui est difficile. Il faut qu'on accepte de vivre ces tensions-là et de les faire vivre ici et maintenant dans ce que Dieu nous place devant nous, ici et maintenant dans la justice que nous avons à rechercher dans ce monde. Chacun à notre façon, chacun avec humilité et avec assurance. Avec l'humilité de celui qui se sait faillible et l'assurance de celui qui se sait justifié devant Dieu. Avec l'humilité de celui qui cherche la volonté de Dieu et l'assurance de celui que Dieu révèle sa volonté. Une mise en action dans notre vie de tous les jours, une recherche de ce qui est juste et la parole nous parle souvent de la défense de celui qui est faible, qui est opprimé au milieu de devant nous. Nous avons à nous impliquer aussi là-dedans, parce que Dieu est le Dieu des vivants, de ceux qui sont autour de nous, et c'est ici et maintenant qu'il attend que nous agissions et que nous lui rendions gloire. Alors que le Seigneur nous guide sur ce chemin.